les experts de France Bleu Provence.
Corinne Zagara.
Le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie et de l'unité de transplantation et de thérapie cellulaire. Ouh là là, ça fait sérieux tout ça. Et c'est sérieux. Bonjour professeur Blaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler aujourd'hui des avancées de la recherche et des traitements contre, on va dire, les leucémies. Alors, c'est un terme un petit peu générique, on va détailler tout cela. Vous êtes plutôt spécialisé dans la recherche et dans l'élaboration de traitements par le biais de greffes, mais pas de greffes d'organes, hein. Voilà, on va bien faire la différence. De greffes de cellules de la moelle osseuse, hein, puisque la leucémie, à la base, c'est une altération, si j'ai bien compris, des cellules de la moelle osseuse. Après, il y a plusieurs formes de leucémie, mais ces cellules que l'on va régénérer, j'allais dire, peuvent aussi servir à renforcer le système immunitaire. Voilà, j'ai pas trop dit de bêtises, j'ai bien résumé la chose.
Non, c'est tout à fait ça.
On en est où aujourd'hui à l'Institut Paoli Calmette, qui est quand même un pôle de recherche très important en France et en Europe aussi, à ce niveau-là?
Bien, c'est un centre d'hématologie important dans la région et au niveau national et international, à la fois pour la prise en charge des leucémies aiguës, mais aussi pour la réalisation des traitements par greffe de moelle osseuse dont on vient juste de parler. Alors c'est toujours des situations complexes, difficiles, dans lesquelles on progresse rapidement, jamais assez rapidement, parce que l'allègement individuel, c'est bien sûr des réponses qu'on doit toujours obtenir, mais c'est vrai qu'il y a des progrès extrêmement importants qui sont faits.
Alors, on parle de leucémie, il y a plusieurs types de leucémie, la leucémie aiguë, hein, vous venez de l'évoquer. Alors là, on peut le dire quand même, hein, pour essayer de faire bien comprendre à nos auditeurs l'importance des avancées de la recherche, à l'époque, hein, pour dire, une leucémie aiguë, on ne survivait pas au-delà de 7 jours.
Mais sans traitement, c'est une maladie qui évolue d'un seul tenant, très rapidement, sans qu'il y ait forcément de signes précurseurs, en quelques jours, en effet.
Oui. Et aujourd'hui?
Alors heureusement, aujourd'hui, grâce au traitement dont nous disposons, incluant la chimiothérapie, d'autres types de thérapeutiques et la greffe de moelle osseuse, on peut obtenir à peu près 60 à 70% de guérison,
voilà.
Tout confondu.
C'est formidable.
Et dans des formes autres, notamment en pédiatrie, les taux sont encore beaucoup plus élevés.
La leucémie chez les enfants, c'est quelque chose d'important ou
C'est une maladie rare. Mais une maladie bien spécifique, mais hautement symbolique, bien sûr. Et donc, ça a toujours frappé beaucoup qui que ce soit. Et donc, ce sont là que beaucoup de progrès ont été faits.
Oui. Il y a un âge ou pas pour contracter une leucémie. Ça peut survenir à n'importe quel moment de la vie. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Vous avez des statistiques à ce niveau-là?
Oui, bien sûr. C'est plutôt une pathologie du sujet âgé, comme la plupart des cancers. C'est-à-dire, quand je dis âgé, la notion d'âge et de personne âgée change au fur et à mesure du temps. La médiane d'âge des leucémies aiguë de l'adulte, du sujet adulte, est de l'ordre de 60-65 ans.
Ah, voilà, ça c'est une information importante. On va accueillir Denis, si vous le voulez bien, parce que le principe de cette émission, professeur Didier Blaise, c'est de donner aussi la parole, évidemment, à nos auditeurs qui ont des questions à vous poser, des témoignages à nous apporter. Bonjour Denise, à la Seigne-sur-Mer. Bonjour.
Bonjour, excusez-moi. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Bonjour professeur.
Bonjour,
moi, 5 mois après la naissance de ma fille, on m'a détecté cette maladie, mais ça a été pris à temps. J'étais soignée 2 mois à Marseille par un professeur, ma tante m'avait envoyé. Et ensuite, j'ai arrêté le traitement. C'était trop dur. J'ai été soignée pendant 7 ans. Sept ans après, j'ai été guérie. Mais je reste toujours très... Voilà, le docteur, j'ai été suivie par un docteur, un très bon docteur sur la Valette. Et j'ai été soignée par cachet. Oui, j'ai fait la chimio en cachet. Il m'a proposé une grossesse. Et j'ai eu une grossesse et j'ai eu un beau petit fils, quoi, qui est magnifique. Il n'y a pas du tout mon teint. Mais seulement, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'il risque quelque chose, mon enfant?
Alors la réponse est claire, elle est non.
L'hérédité.
Ne risque rien, mais ce type de maladie, si on parle de leucémie, n'a absolument aucune facteur d'hérédité. Donc il ne risque rien.
Bon, bah ça c'est une très bonne chose. Tiens, ça me fait penser, là, dans le témoignage de Denise, elle a été donc atteinte d'une leucémie, elle a eu un enfant. Il peut y avoir des cellules qui sont prélevées, on en a entendu parler, dans le cordon ombilical, justement pour greffer éventuellement des patients atteints de
bien sûr, il y a plusieurs réponses à votre question en fonction de ce que l'on va regarder. En termes de greffe, on utilise de plus en plus cette forme de source de cellules souches hématopoïétiques. Les termes ont leur importance, même s'ils sont compliqués. Je ne parle pas des cellules souches embryonnaires, pour lesquelles il y a beaucoup de débats. C'est les cellules souches de partant de la moelle osseuse, qui se trouve en fait dans le cordon ombilical aussi, et que l'on peut utiliser pour faire des greffes quand il n'existe pas de donneur dans la famille.
Mm-hmm.
Donc, à travers ceci, c'est quelque chose d'assez complexe, là encore. Cela passe par la constitution de banques de sang de cordon.
Mm-hmm.
Il y en a une à Marseille, hein, à l'Institut Paoli Calmette. Il y en a d'autres, bien sûr, en France. Et ça peut être des sources de cellules qui sont utilisables. En général, c'est peu dans à l'intérieur de la même famille. C'est plutôt pour un don à l'extérieur.
D'accord.
Et par contre, la deuxième possibilité de préserver des cellules, c'est justement chez des personnes jeunes qui sont atteintes de ces maladies-là, de pouvoir préserver des gamètes pour leur permettre, en fonction des traitements qu'ils ont reçus ou qu'ils vont recevoir, éventuellement, d'avoir des enfants par la suite.
Oui, ça s'appelle des autogreffes. Alors ça,
je faisais allusion au fait de pouvoir conserver des spermatozoïdes ou des ovocytes
pour pouvoir
réaliser ces éléments.
D'accord. On va revenir sur le sujet. Nous sommes avec le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Nous parlons de leucémie et surtout de greffe, hein, d'autogreffe, d'allogreffe, c'est-à-dire une greffe. Le don vient d'une autre personne. Et si vous avez suivi et subi, entre guillemets, ce genre de traitement, n'hésitez pas à en témoigner et à aussi poser vos questions au 04 42 38 08 08. À tout de suite. Tim Daou sur France Bleu Provence.
Tous les jours à 9h, les experts de France Bleu Provence.
Allez, nous parlons de notre santé. Nous sommes avec le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, centre régional de lutte contre le cancer. De l'information autour des greffes, des autogreffes, des allogreffes. Mais attention, hein, nous ne parlons pas de greffe d'organes, mais bien de greffe de moelle osseuse, hein, de cellules, de moelle osseuse qui contribue aussi à renforcer un système immunitaire qui peut être défaillant. Hein, hormis une leucémie, puisque vous le disiez, hein, ça peut avoir d'autres applications, mais qui soigne aussi la leucémie. Alors vous êtes en même temps chercheur, donc dans votre laboratoire, on vous imagine avec votre microscope sous le nez, comme ça pour faire simple, et vous êtes aussi dans l'application. Comment ça fonctionne? J'imagine que vous étudiez des cellules, par exemple, qui sont contaminées, qui sont cancéreuses, hein, disons le mot. Il y a des choses qui se recoupent d'un patient à l'autre, il y a des inédits. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à faire des groupes pour après cibler les traitements, qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça se passe en recherche?
Alors d'abord, je vais vous décevoir, j'ai pas de microscope.
Non, ça n'existe plus, les microscopes.
Si, bien sûr que ça existe, et c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, il faut concevoir la recherche maintenant, comme notamment dans les institutions comme la nôtre, comme des travaux d'équipe extrêmement importants.
Mm-hmm.
Donc il n'y a pas une personne qui fait de la recherche, ce sont de nombreuses personnes au sein de nombreuses équipes.
D'accord.
Et c'est les interactions de ces équipes qui permettent d'avancer. Donc il y a les équipes qui travaillent sur ce que l'on appelle le fondamental, c'est-à-dire sur les cellules, sur les modèles murins, de modèles de souris par exemple, qui vont dire quelle application pour l'homme. Bien sûr, il n'y a pas d'application directe, mais c'est l'émergence des connaissances dans ces modèles-là qui permettent de donner des idées et de pouvoir avancer et de vérifier certaines hypothèses avant de passer en clinique.
Mmh.
Et des personnes comme moi qui ont des responsabilités cliniques sont plutôt des personnes qui, dans le cadre de leur recherche, essayent de mettre au niveau de l'application clinique des évolutions que l'on a constatées au laboratoire.
D'accord.
Mais c'est un continuum permanent et un va-et-vient dans les deux sens.
Merci de la précision. Marie, bonjour à Marseille.
Oui, bonjour à
Bienvenue.
Vous deux. Alors moi, je vous appelle parce que d'abord, un grand merci à ces équipes à Paoli qui sont sensationnelles. Moi, j'ai été frappée de plein fouet en 2003 par une leucémie aiguë. On m'a récupérée à Paoli avec 83% de mauvaises cellules, donc c'est vous dire.
Mmh.
J'ai subi autogreffe, rechute, allogreffe. Allogreffe avec le sang de cordon. Alors comme je dis à chaque anniversaire, mon bébé a 5 ans et 8 mois aujourd'hui.
Oui. Et aujourd'hui, alors Marie, comment vous portez-vous?
Je suis très bien.
Oui.
Je suis très bien. Je suis toujours suivie une fois par an. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de mon corps. À 56 ans, personne n'a rien vu, aucun médecin. J'avais la forme, j'avais une très bonne tension. Personne n'a rien vu. J'étais essoufflée. Voilà, oui. C'est tout.
Et c'est lors d'une prise de sang qu'on vous a diagnostiqué votre leucémie aiguë, alors?
Non, du tout.
Pas du tout.
Je perdais, alors ça a duré 2 mois, ça a commencé à septembre par un rhume qui ne passait pas, puis après j'ai trouvé un bleu dans le creux des reins, mais on se précipite pas chez le médecin parce qu'on a un bleu, et puis au mois de novembre, à partir du mois de novembre, j'avais la voix qui partait le soir. J'avais de moins en moins de voix, donc je suis allée voir pneumologue, allergologue, j'ai fait le tour. Et puis je suis tombée sur un médecin sur le Prado, un petit bout de femme à qui je crois je dois ma vie, parce que c'était elle n'a rien vu, mais elle a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal, quoi. Elle m'a fait rentrer à la Croix-Rouge. Et bon, premier bilan sanguin, bien sûr, tout était effondré.
Il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre témoignage, Marie, et sûrement aussi beaucoup de matière pour le professeur Blaise. Déjà un mot peut-être, parce que voilà, c'est important les symptômes. Voilà, 56 ans, une leucémie aiguë, on n'a rien vu venir, il y a aucun symptôme.
C'est en effet, dans le cas des leucémies aiguës, la plupart du temps, c'est un démarrage foudroyant. Quelqu'un est bien et 72 heures après, il est hospitalisé avec le diagnostic d'une leucémie aiguë. Et c'est là qu'il faut réagir très vite. Et je pense que le témoignage de Marie est très important parce que quand on parle de leucémie aiguë, c'est la catastrophe totale quand on l'annonce. Et pour bien des raisons. Mais son message est important puisque on peut guérir de ces leucémies.
Oui.
Je le disais tout à l'heure, 60 à 70% des personnes, grâce au traitement adapté, j'ai pas dit qu'il fallait faire des greffes à chaque fois, mais s'il y a besoin de le faire, il faut pouvoir le faire, permettre d'obtenir une guérison.
Un mot sur l'autogreffe et l'allogreffe pour que les auditeurs comprennent bien.
Alors, ce sont deux techniques thérapeutiques qui ont en commun le mot greffe, mais qui n'ont en fait pas beaucoup de choses à voir ensemble. On parle de greffe de moelle osseuse à chaque fois. La première, l'autogreffe, est en fait une technique qui permet d'administrer de très fortes doses de chimiothérapie qui vont détruire la moelle osseuse. Donc, on a un moyen technique, on préserve quelques cellules de la moelle osseuse auparavant, on les congèle, et après avoir donné la chimiothérapie, on réinjecte ces cellules.
D'accord.
Le traitement, c'est la chimiothérapie. À l'inverse, la greffe allogénique, de moelle osseuse aussi, est une thérapeutique qui permet de prélever des cellules provenant de quelqu'un d'autre, autre que le patient. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les cellules du système immunitaire. On greffe ces nouvelles cellules du système immunitaire pour contrôler une maladie qui s'est développée à cause peut-être d'un système immunitaire défaillant du patient.
Voilà, au niveau de la compatibilité, on fait appel en général à un membre de la famille, mais on peut aussi avoir des compatibilités
avec... Les seuls compatibles dans la famille, et ça, il faut que ça soit bien compris, ça ne peut être que les frères et sœurs qui n'ont pu... c'est les seuls qui ont pu obtenir ou hériter du même patrimoine génétique sur le plan de la transplantation. Et chacun des frères et sœurs, du fait du nombre de chromosomes, je ne vais pas dans les détails, a une chance sur 4 d'être compatible. Bon, donc la plupart du temps, on n'a pas de donneur dans la famille.
Merci Marie pour ce témoignage. On vous embrasse et on vous souhaite plein de bonnes choses pour toutes les années à venir. Dans un instant, c'est Marie-France qui voudrait témoigner à Trattil. Il y a du monde. Fatima aussi est avec nous et Christine Agrias, que nous sommes avec le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Cet après-midi sur France Bleu Provence.
Les experts de France Bleu Provence 04 42 38 08 08.
Nous avec le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie et de l'unité de transplantation et de thérapie cellulaire. Nous parlons de greffe, d'allogreffe, d'autogreffe, en ce qui concerne la moelle osseuse pour soigner les leucémies et autres cancers. Beaucoup d'appels, et ça va vous faire plaisir, Didier Blaise, pour saluer la gentillesse des équipes de l'Institut Paoli Calmette. Voilà.
Vous transmettrez. C'est à moi de les remercier aussi, parce que au milieu de toutes leurs difficultés, penser à donner des remerciements, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire.
Mais c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, la prise en charge, j'allais dire humaine, de la personne qui vient, qui a besoin de vous pour se faire soigner. C'est une dimension importante.
Je pense que c'est important et je pense que la médecine de ce côté-là a bien évolué. A évolué dans le sens où on ne traite pas une pathologie, on traite quelqu'un qui a une maladie. Et ça, c'est quelque chose d'important.
Marie-France, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Traître, Marie-France, et vous avez besoin d'informations.
Oui, j'ai besoin d'informations parce que j'ai ma nièce qui est à Bordeaux, que je vais aller voir dans peu de temps, dans 2 jours, qu'il y a 4 mois, on nous a annoncé qu'elle avait un cancer des os. Elle a été pour partir pour faire un séminaire. Elle a eu un malaise, fatiguée. On lui a fait une prise de sang et on a trouvé dans la prise de sang qu'elle avait un cancer des os.
Oui.
Alors, je voulais demander au professeur, parce que là, elle a été traitée, il y a un traitement, elle est à Bordeaux. On vient d'apprendre qu'elle n'a plus de germes dans le sang. Mmh. Elle a le germe juste à la moelle épinière. À la moelle osseuse, pardon, n'importe quoi. Et là, elle avait deux donneurs qui étaient fatigués. Normalement, le mois prochain, elle rentre en chambre stérile pour recevoir une greffe. Oui. Parce que c'est vrai que le professeur vient de s'y annoncer, elle n'a pas de frère ni de sœur. Nous, on était tous donneurs, mm-hmm. mais il fallait un frère et une sœur. Et comme elle n'en a pas, oui. donc elle a un donneur. Je voulais savoir, c'est une maman qui a 39 ans, je voulais savoir par le professeur, comme elle a le germe dans la moelle osseuse maintenant, mmh. Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a... Je remercie beaucoup tous les professeurs et tous les chercheurs de tout ce qu'ils font. Parce que je suis quelqu'un qui était stérile. Je pouvais pas avoir d'enfant. J'ai un fils qui a 28 ans maintenant. Donc je vous remercie à tous de toutes les belles choses que vous faites.
C'est gentil. Merci beaucoup, Marie-France. Alors,
oui, c'est très gentil, Marie-France. Alors, bien sûr, j'ai pas les éléments du dossier. Ça m'est difficile de répondre en détail. Mais globalement, à partir du moment, la chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que rien n'est acquis. Mais globalement, quand on traite quelqu'un avec des stratégies qui sont des stratégies aussi lourdes, c'est que globalement, on a en main véritablement les espoirs de pouvoir faire quelque chose. On n'engagerait pas quelqu'un si on savait que ça ne lui apporterait rien dans cette thérapeutique. Donc, je peux pas aller dans le détail parce que je ne connais pas le dossier.
Bien sûr.
Mais globalement, l'équipe de Bordeaux est tout à fait au point pour pouvoir réaliser ce genre
de choses. Elle est entre de bonnes mains.
Tout à fait.
Bon. Vous l'embrasserez de notre part, hein, quand vous irez la voir, Marie-France. Merci en tous les cas de votre intervention. Fatima est à Traite. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. On vous écoute, Fatima.
Bonjour, docteur.
Bonjour, Fatima.
Voilà, ben, je pense que vous connaissez ma fille Anissa, je crois que vous l'avez déjà vue.
Madame Bonneau.
Madame Bonneau, que vous devez, vous êtes en pour parler pour la greffer, au oui. mois de, je pense, mars. Mm-hmm. Et voilà ce que je voulais savoir, combien dure le, que vous la mettez en isolation, là, en chambre stérile.
Alors, une greffe de façon, standard, c'est à peu près 5 à 6 semaines d'hospitalisation initiale. C'est une longue, très longue hospitalisation, mais il y a besoin véritablement, après d'un suivi extrêmement particulier, en dehors de l'hospitalisation elle-même, mais par exemple dans des structures comme notre hôpital de jour, où on revoit plusieurs fois par semaine le patient.
Oui.
Donc pendant plusieurs semaines et plusieurs mois.
Donc vous allez vous occuper de la nièce de notre auditrice.
Probablement.
Voilà, formidable. Elle n'est pas la seule, évidemment, à passer entre vos mains expertes. La nièce qui souffre de drépanocytose, c'est ça?
Alors, une drépanocytose, bien sûr, dans le détail, encore une fois, je n'irai pas, en plus, sur un patient
bien
particulier.
Sûr. Oui, on va
respecter. Mais globalement, la drépanocytose est une maladie qui n'est pas une maladie maligne, à la différence des leucémies aiguës. Mmh. C'est une anomalie des globules rouges, mmh. Mais qui peut bénéficier de greffes de moelle osseuse, notamment des greffes, enfin, et de la greffe allogénique, tout simplement parce que ces cellules sont malades et ont besoin d'être remplacées.
D'accord, merci.
Et donc
pour
c'est une thérapeutique qui se développe, oui. qui a été beaucoup développée dans le cadre de l'enfance et pour lequel on commence maintenant à avoir de très bons résultats chez les personnes plus âgées.
Voilà, vous êtes rassurés, Fatima, on vous embrasse aussi à Traite. Dans un instant, Marc va intervenir depuis Marseille dans le 6e arrondissement. On se retrouve dans 3 minutes. De Gaïn, Bernard Lavillier sur France Bleu Provence.
Posez toutes vos questions à nos experts. France Bleu Provence, à votre service.
Allez, 5 minutes encore pour parler de traitement et des avancées de la recherche concernant les leucémies et autres cancers à travers les greffes. Hein, mais ce ne sont pas évidemment les seuls traitements hein, dont nous pouvons bénéficier. Marc, nous sommes avec le professeur Didier Blaise, chef du service d'hématologie à l'IPC de Marseille. Marc, bonjour, merci d'être avec nous. Depuis Marseille, bonjour. Justement, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Marc.
Voilà, je vous appelle parce que le 20 juillet dernier, donc ça fera bientôt un an, je suis arrivé à Pauli-Calmette avec ma petite valise et puis je suis monté au 5e étage au service hémato 2 du professeur V. Et là, bon, passé le choc, bien évidemment, du diagnostic qui n'avait pas été clairement posé pour différentes raisons jusque-là, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de panique, mais à partir du moment où je me suis retrouvé sur la table d'opération pour qu'on me pose ma voie centrale, ma VVC, je regardais le ciel, il était bleu, c'était l'été, bien sûr, hein, et je me suis dit, je vais guérir. Et je dois dire que pendant les 5 mois que j'ai passé à Pauli-Calmette, donc au 5e étage, je n'ai jamais douté. J'ai eu 4 chimios, une induction qui a duré toute une semaine, 24 heures sur 24, de consolidation et une intensification. Voilà. À la suite de ça, on a fait une autogreffe parce que je n'ai pas de vrais frères et de vraies sœurs. Et voilà, je suis donc en arrêt de travail encore pour quelques semaines puisque je reprends normalement sur un demi-pied à partir du 16 juillet prochain. Voilà. Je dois dire que le service du professeur V, pardon, je suis un petit peu ému.
On comprend, c'est normal.
Est un service, comme on dit aujourd'hui, au taquet, quoi. Voilà. Ce sont des gens qui sont adorables, tous les médecins, que ce soit le docteur Duncan, Prédé, je vais oublier personne, et puis toutes les infirmières, oui. Ils étaient tout le temps. J'ai eu 5 minutes de maximum de malaise, enfin, à la troisième nuit de début de ma première chimio d'induction, ça a été le grand maximum. Myriam, l'infirmière de nuit, est venue et en 2 minutes, l'affaire était bouclée, quoi. Mmh. Ils sont exceptionnels. Franchement, on a énormément de chance.
Bon. Merci, Marc, pour ce témoignage poignant, professeur Blaise. Voilà, Marc s'en sort. Ben ça, c'est ce qu'il faut retenir.
Ah, tout à fait. C'est encore une fois un message extrêmement important d'espoir et ça martèle ce que je disais tout à l'heure. On peut guérir de ce genre de maladie.
Oui.
Il faut mettre les traitements en place.
Voilà. Juste pour terminer, quelques petites informations concernant ces greffes, auto ou allo, hein, donc propre ou venant de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour la personne qui va être greffée?
Alors, comme je disais tout à l'heure, pour la greffe autologue, la préparation, c'est la chimiothérapie intensive. Mmh. C'est ça qu'a reçu Marc, notamment. Hein. Et le traitement est basé sur cette chimiothérapie intensive.
Donc, on détruit les mauvaises cellules.
Exactement.
Et on en a gardé quelques-unes.
Malheureusement, on détruit les cellules de la moelle osseuse. C'est pas un effet qu'on recherche. Et comme on a conservé des cellules de la moelle osseuse qui sont congelées, on les réinjecte et on restitue une moelle osseuse normale. C'est le traitement qu'a eu Marc. La deuxième possibilité, c'est la greffe allogénique. Et quand je dis possibilité, c'est fonction du type de maladie. On peut utiliser éventuellement les deux. Là, le traitement de préparation à la greffe allogénique est en fait un traitement qui met au repos le système immunitaire du patient.
Oui.
Donc un traitement plus qu'on appelle immunosuppresseur afin d'éviter le rejet de ce greffon qui, même s'il est compatible, provenant de quelqu'un de compatible sur le plan de la transplantation, provient quand même d'un individu différent.
Mmh. Une précaution à prendre, j'imagine, quand on sort de l'hôpital. Après, dans les premières semaines, il y a des dispositions particulières à prendre quand
on fait les greffes allogéniques, il y a toujours une angoisse du patient qui va sortir, parce qu'il est dans un milieu quand même protégé dans l'unité de greffe, UDT. Mais il doit répondre à un certain nombre de précautions qui sont notamment du bon sens. Ne pas manger n'importe quoi, ne pas manger d'aliments contaminés, ne pas se mettre dans une situation où il va rencontrer beaucoup de personnes qui, par exemple, l'automne ont la grippe.
Oui.
Il faut pas qu'il se mette en danger. Mmh. Mais tout ça, on lui explique bien. Il y a un certain nombre de bon sens là-dedans. Et puis, ça se passe en général très bien.
Merci, de nous avoir parlé de votre métier magnifique, de votre mission même, hein, au sein de l'Institut Paoli Calmette, professeur Didier Blaise. À très bientôt sur France Bleu Provence. Et on remercie évidemment toutes les personnes qui ont témoigné. Parce que c'est pas chose facile, évidemment, hein, de parler de soi, hein, et de se livrer comme ça. En tous les cas, on avance ensemble et c'est ça l'essentiel. À très bientôt sur France Bleu Provence. Dans un instant, tout à fait autre chose, nous gardons.